Prêt pour retourner au travail? Nous, non. Enfin bon, c'est un tel plaisir de vous retrouver que nous sommes là. Voici un nouveau numéro de CMA. Bonsoir et bienvenue dans C'était mieux après, l'émission qui revient sur les origines des choses, toujours aussi dur à dire. Ce soir, il va être question de balles, de mécanique, de robots, de trônes, de pieds et de filles. Bref, il y en aura pour tous les goûts. Voici le sommaire de la première partie de CMA. Elle nous habille régulièrement de la tête aux pieds, et c'est justement des pieds dont il est question ce soir. Bonsoir Caro, de quoi parle-t-on ?
Bonsoir, et oui, ce soir nous allons parler des fameuses espadrilles, et vous risquez d'être surpris sur les origines.
Ah, ok. Oui. Il a très envie de retourner à l'école, alors autant en prendre une de prestige. Bonsoir Mathias, quel est ton sujet ?
Bonsoir, ce soir je vous raconterai pourquoi le parking du centre-ville s'appelle la Rochefoucauld.
Ah, bon, eh ben on verra ça. Elle dit parfois non, parfois oui, et ses sujets sont souvent gonflés. Bonsoir Manu, de quoi nous parles-tu ?
Alors aujourd'hui, je m'appelle Lily et je suis la première poupée sexuée.
Oh, ok. Un beau programme, d'accord. Ok, bon, auquel on ajoute une question du Graal. Alors c'est un auditeur qui demande pourquoi on dit aux quatre coins du monde alors que c'est la Terre est ronde. Voilà, bah vous verrez, le Graal, il a quand même une réponse. Alors, en deuxième partie, il sera question de sport, de série et de maison. Donc, bonsoir à nos chroniqueurs également. Mais bonsoir. Pour le moment, voici les chroniques de la première partie de CMA. Il est des sujets de mode plus compliqués que d'autres. Comment être chic en espadrille ? Je ne suis pas sûr qu'il y ait une réponse. En tout cas, voici la chronique de Caroline.
En espadrille, on a l'air d'un con. On a des ampoules, on danse le disco. En espadrille, ça pue les pieds. En espadrille, en espadrille, on rachète une paire au bout de 3 semaines. En espadrille.
C'était un message de la collectivité des Tongs.
Énorme, hein, j'adore.
Voilà, bah oui.
Et oui, les mythiques espadrilles, mais elles n'ont pas tout à fait les origines que vous croyez.
On croit aucune espadrille, j'en savais même pas d'où ça vient.
Une petite idée, le Pays Basque quoi, au moins. Non ?
Ah bon,
oui,
pourquoi ?
Ah, l'Espagne,
oui, Espagne, enfin. Ah,
espadrille, Espagne.
Ouais, alors j'avais pas pensé à
ah ouais,
ça.
Ah ouais, non,
mais
non, voilà. Oui, non.
Alors, en effet, des fouilles archéologiques ont démontré que des chaussures avec des semelles de cordes étaient utilisées il y a environ 4000 ans. La forme la plus moderne de l'espadrille remonterait vraiment au XIIIe siècle. Il semblerait que les fantassins espagnols du roi d'Aragon portaient ce type de sandales. Mais il faudra attendre le XVIIIe siècle pour qu'une véritable fabrication de l'espadrille s'organise. C'est 2 siècles plus tard que le siège de la production s'est solidement implanté dans la commune de Mauléon, située dans les Pyrénées-Atlantiques.
Elle dit ça comme quoi, comme s'il y avait une correspondance.
Oui. À Mauléon.
Ah, il y a Mauléon, ouais. À Cholet aussi.
Oui.
Ah bah non, et c'est pas Cholet.
Dans les Deux-Sèvres.
Oui.
Non, c'est bien celui du pays. Du pays.
Ah, on est loin de l'espadrille, là.
On s'arrête, Jean-Michel Géo, là.
Une émission locale, on l'a dit.
Eh bien non, pas d'espadrille à Cholet, désolé. La sandale équipe tour à tour les militaires de la couronne catalano-aragonaise, les prêtres, puis les mineurs. La demande est alors croissante, à tel point que des jeunes femmes arrivent des vallées aragonaises pour fabriquer les chaussures. On les appelle même des hirondelles.
Les chaussures, voilà. Ou les filles ?
Les filles.
D'accord.
Mais pourquoi ?
Parce qu'on les a fait venir, en fait, et elles font un sacré trajet pour venir d'Aragon, voilà, à Mauléon.
Et que le printemps, qu'au printemps.
C'est de la main-d'œuvre.
D'accord.
La tradition espagnole voulait même que chaque région soit reconnaissable à la couleur de ses espadrilles. Donc, les danseurs de Sardane, par exemple, avaient des espadrilles blanches et exclusivement blanches. Voilà. Okay. Tandis que la région de Lamporda était symbolisée par des rubans ajoutés à leurs espadrilles blanches.
Magnifique.
Voilà.
Magnifique, très chic.
Pour les hommes aussi. Hein.
Alors, excuse-moi, Caroline, tu es censée faire une chronique
sur le bon goût et sur la mode.
Mais c'est chic, les espadrilles.
Ah, c'est ça que je voulais t'entendre dire.
Ah, bien sûr.
C'est quoi, du coup? Ça ressemble à quoi?
Bah, c'est ça.
Ah, ouais, alors, elle a des espadrilles compensées quand même.
Compensées, voilà. Mais on va en parler après.
D'accord.
Alors. Pour faire face à l'évolution vestimentaire de la société, les créateurs ont réinterprété l'espadrille. Elle est devenue iconique et incontournable dans les années 60 grâce à Yves Saint Laurent, qui la réinvente en lui ajoutant un talon compensé. Mmh. Voilà, alors là, c'est un succès fou et un succès qui devient international grâce à des stars comme Humphrey Bogart, Lorraine Bacall, que l'on voit dans un film, porter tous les deux des espadrilles. Picasso, Hemingway, c'est un peu la chaussure de l'artiste, quoi.
Mmh, d'accord.
Donc on peut se féliciter d'un tel succès made in France quand même, grâce aussi à Brigitte Bardot, avec laquelle c'est toute l'atmosphère de Saint-Tropez qui arrive, mmh. en fait. Donc Ramatuelle, les petits chemins, les congés payés, les vacances, mmh. avec les enfants dans la Peugeot, des choses comme ça.
Un air de plage.
Oh, l'enfance qu'elle a
eue. Oui, faut s'imaginer. Alors les années 80 ont été plus compliquées par contre, avec la concurrence venue de Chine. Et qui a apporté avec elle son lot de maladies, parce qu'il y avait vraiment des maladies de pied à cause des espadrilles. En fait, la corde était maltraitée et venant de Chine, il y avait parfois des petits animaux qui squattaient qui créaient en fait qui se plaçaient sous la peau et qui évoluaient comme ça. Donc il y a eu un vrai problème avec les concurrences chinoises. Les grosses maisons ont mis la main basse sur les espadrilles, évidemment, puisque c'était un phénomène. Donc on en a retrouvé chez Chanel, on en a retrouvé chez Hermès. Voilà, ils se sont appropriés la fameuse paire des Pays Basques qu'ils ont transformée. Et cela a contribué à quand même maintenir le savoir-faire français à flot, et à le tenir à flot surtout. Et il faut savoir que 65% de la production est toujours française et est toujours située à Mauléon.
D'accord.
Ce qui est quand même rarissime,
mais
en fait.
Mais pas que le haut de gamme, quand même.
Parce que
normalement, là, c'est quelque chose de premier prix, quand même, les espadrilles, c'est de la
exactement,
corde.
Exactement, en fait, c'était hyper apprécié des Français, parce que c'était pas cher, c'était quand même pratique, en fait, c'est facile à enfiler, on la mettait à la plage, en sortie, c'était quand même...
Sauf que celle que tu dis, maintenant, elle doit coûter bonbon.
Ah bah oui, on en trouve même, là, le dernier à avoir créé sa paire, c'est Weston. et en fait, la paire est à 365 euros.
Oh là, ouais, quand même,
évidemment, c'est
corde,
toujours plus, mais il est facile d'en trouver en supermarché, etc. C'est vraiment la paire accessible à tous et à toutes, même pour les enfants. Mm-hmm. Et puis, avec le petit ruban, etc., dans des couleurs neutres, noires, chic, ça ajoute quelque chose. On imagine bébé avec son mini-short et puis ses épaules dénudées, c'est magique, non?
Alors moi, je comprends pas quel est le pourquoi 300 euros.
Parce que c'est une marque de luxe, donc ouais, ils sont obligés de s'aligner, mais après, c'est l'effet toujours plus, quoi.
Mais sauf qu'elles, elles n'ont pas des semelles de corde. Enfin, peut-être en dessous, mais en tout cas, il y a quelque chose entre le pied et la corde, à mon avis.
Ah oui, je pense qu'il y a rajouté.
Voilà, parce qu'au
départ... La semelle est plus confortable. Voilà. C'est quand même pas...
Au départ, on est direct sur la corde.
C'est retravaillé avec des produits nobles.
Ouais.
Mais on est quand même sur une espadrille.
Et puis, sur le premier prix, le tissu qui est au-dessus, c'est un genre de jean qui frotte quand même, qui n'est pas très agréable.
Oui, c'est ça, avec une teinture à peu près approximative. Quoi.
Ouais,
c'est vrai
ouais.
qu'il ne faut pas trop les laver.
On est pieds nus, quand même.
Ah, ouais, bah, chaussette espadrille, alors là, je pense que
ah
c'est
non,
un
Ah non, pas chaussette espadrille, pitié.
Ouais.
Non, évidemment, pieds nus.
Les Allemands, je pense qu'ils sont en chaussettes.
On peut les mettre un peu en claquette, en fermant derrière, etc. Mais c'est quand même plus chic qu'une petite claquette ou qu'une... Une petite tongue chaussette ou...
D'accord.
Enfin bref, là, moi, l'espadrille, j'adore. Pas bon. Vous
Si,
c'est bien. C'est,
ouais,
je peux dire,
chanvre
c'est...
et il y a toile de jute.
Et toile de jute aussi sur
l'espadrille. Oui, les deux.
D'accord.
Okay. Et chanvre, comme disait Flo.
D'accord.
Je préfère les mocassins à gland, quand même.
Oui, non, mais ça s'habille un peu plus, quand même.
Tu vas à la plage avec tes mocassins à gland, toi.
Ouais, c'est classe.
Donc, bref, l'été, on mise sur les espadrilles.
Bon, ben on avait fait les tongs là 15 jours et maintenant on fait les espadrilles. Ok, bah c'est noté. Merci Caro. Dans un instant, on rentre à l'école et on joue à la poupée. Mais là, c'est l'heure du Graal, la minute qui répond à vos questions. Un auditeur a posé une énigme. Ben voici la réponse du Graal.
Question de Sylvain. Pourquoi dit-on aux quatre coins du monde alors que la planète est ronde?
Super question. On va tourner en rond, je pense. Mais en attendant, va au coin, Sylvain. Alors oui, la Terre est ronde, mais on a plus de quatre coins au monde. On en a en Turquie, en Chine, en Argentine, en Roumanie. Le coin a été cultivé il y a 4000 ans. Ce fruit a même eu un grand succès entre le 16e et le 18e.
Comme il est riche en pectine, on l'utilise pour faire des gelées. On peut l'ajouter à la tarte aux pommes pour relever le goût. On fait alors une marmelade. Car justement, le nom marmelade veut dire confiture de coin. Dans les Balkans, on en fait de l'alcool. En Chine, on en fait une boisson survitaminée. Donc tu vois, Sylvain, on en trouve vraiment aux quatre coins du monde. Et pourtant, la planète est ronde. Et même en boule. Bon, il y en a toujours pour dire qu'elle est plate. Mais en tout cas, le coin est rond. Quel que soit le coin où il se trouve sur la planète.
J'ai pas tout compris, mais bon, voilà. Vous pouvez donc poser vos questions au Graal sur le site radio-g.fr.
Il a eu un coup de chaud quand même.
C'est l'été. Voilà. Elle a donné son nom à un pont. Elle a même un rapport avec la place qui l'allonge. Une histoire très longue parsemée de traditions que va nous conter son nouvel élève. Voici la chronique de Mathias. Alors, si quelqu'un a trouvé son sujet, il est fort, mais...
C'est pas très fun, ça manquait un petit fond électro,
ouais,
quand même.
Ouais, je pense, ouais,
c'est celui des Quetzars.
Ah ouais ? Non, les Quetzars ?
Ah ouais, ouais.
Non, ou un corps d'armée ?
Un truc d'armée, ouais.
Moi, j'aurais dit les Quetzars.
Ah ouais ? Mais...
Effectivement, c'était les Quetzars, bien joué.
Ah, bravo, Olivier.
Bravo. Comment ça ? Comment tu sais ça, toi ?
Bah, je sais son sujet.
Oh, le mec.
Oh, le tricheur.
Mais au moins, il est honnête.
Non, Olivier a été Quetzars, peut-être ? Olivier, t'as été Quetzars, peut-être, non ?
Ah non.
Ah non, pas du tout.
Okay. Effectivement, ce soir, je vais vous parler de l'école des arts et métiers. Est-ce que vous connaissez cette école ?
Oui.
De nom, et puis elle est justement en rue de la plage.
Au niveau de la place de la Rochefoucauld.
À Angers, oui.
Alors, pour moi, j'avoue que c'était juste une école un peu mystérieuse, où il y avait des gars en blouse grise.
Nous aussi, oui, c'est un peu ça.
Voilà, hein, qui étaient très souvent...
Et pas toujours très sobre.
Voilà, qui étaient pas très sobre et qui avaient l'air d'être très artistique. Donc, j'en savais pas plus que ça. Et en réalité, c'est beaucoup plus... Donc ça a commencé en 1780 dans une ferme dans l'Oise.
Donc ah bon ça, ouais. Ah c'est pas Angers alors.
Non c'est pas Angers du tout.
À Moléon.
Et
à Détongues.
Alors c'était de retour d'un tour de France des écoles militaires, c'est le duc de la Rochefoucauld-Liancourt qui était un homme en fait qui était très épris pour les progrès scientifiques, techniques et sociaux, qui a eu envie de fonder un établissement où les enfants, les pupilles de son régiment, seraient encadrés par des hommes de métier des armes. Donc,
d'accord,
voilà.
D'où la place ?
De la Rochefoucauld.
Ok.
Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, ah.
Enfin, bon, voilà. On peut te le faire, hein.
Oh, oh. Ah.
C'est nous, hein, spontané. Ouais,
parfait. Donc c'est dans cette ferme agricole qui fait plus de 2 hectares qui va accueillir une vingtaine de garçons âgés de 7 à 12 ans, des instructeurs et des officiers.
Ah oui, du coup. Mais c'est jeune quand même.
C'est jeune. Ah oui,
aujourd'hui, ils ont un peu plus.
Aujourd'hui, ils sont plus âgés, mais à l'époque, voilà.
D'accord.
Ça se passait comme ça. Ce qu'ils voulaient, en fait, c'est qu'ils apprennent déjà à lire et à écrire et surtout qu'ils apprennent un métier. Ils voulaient que la pauvreté disparaisse. Donc, par exemple, qu'ils apprennent l'art du tissage.
D'accord.
Qu'est-ce qu'ils allaient en faire après aujourd'hui
bah,
je...
tisser.
Ouais,
si...
ouais.
Si t'as envie de tisser, tu tisses. Hein.
Du coup, je trouve ça très noble comme.
Bravo.
Puis tu bois, puis tu tisses.
Ah oui. Ah, non. Faut beaucoup s'hydrater en ce moment.
À chaque fois, c'est pendant la chronique.
Mais oui, mais pourquoi moi ?
Mais oui.
Et du coup, alors aujourd'hui, il y a assez peu de traces de cette vie. La ferme existe toujours. Il y a une tour qui existe, qui est encore là. Il y a d'autres bâtiments qui sont construits autour. Dans cette tour, on voit qu'il y a des clés. Ça s'appelle les clés d'Aix. C'est des grandes clés.
D'accord.
J'ai vu un peu des photos, c'est des grandes clés assez artistiques.
Et c'est plus une école, c'est un souvenir, quoi.
Alors, c'est un souvenir. Ça a été racheté par l'Association des arts et métiers. Alors, ça fait encore partie de ce cercle-là. Okay. Hein. D'après vous, ces grandes clés, qu'est-ce que ça peut imager ? À quoi elles servent ?
Je sais pas, les clés de l'intelligence, les clés
du savoir.
Ouais.
Alors en gros, c'était les clés qui imageaient la fermeture de la vie scolaire.
Ah bon ?
Et l'ouverture de la vie active.
Ah, le passage.
Il y avait tout un passage, d'accord. En fait, un rituel. Je trouve ça beau, comme. Enfin, bah, je trouve
d'accord.
Que c'était.
Ouais, c'est joli.
Et alors l'expression des arts et métiers remonte au XVIIIe siècle. On dit art parce qu'au Moyen-Âge, la mécanique était considérée comme un art, en fait, à ce moment-là.
Ils font de la mécanique.
Oui, c'est de la mécanique.
D'accord, ok. Mmh. Et donc, voilà, ok.
Donc l'école connaît de nombreux changements de domination. C'était une école royale, impériale, puis nationale supérieure. Il y a eu l'École nationale supérieure d'art et métiers, art et métiers Paris Tech, puis art et métiers.
Ok.
Alors bon, j'ai pas fait toutes les. Enfin, c'est vraiment très 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 complet. Donc,
ça a bien fait de préciser.
Oui, non, mais vraiment, je me suis un peu noyé dans les informations tellement c'était complet.
Bah, depuis 1700, ouais, en tout cas, ouais. Ça se passe des choses.
Il y a eu des statuts, c'était d'abord une école militaire et puis après c'était une école civile à travers les siècles, dû à la succession des régimes politiques. Mm-hmm. L'école évolue vers une formation technique et scientifique. Ouais. Donc, ça, c'est plutôt cool. Les premiers diplômes d'ingénieur d'art et métier a été délivré en 1807. De nouveaux centres sont créés et répartis à travers la France pour répondre aux besoins du monde industriel durant le 19e et 20e siècle.
Okay.
Les écoles et les élèves ont été impliqués pleinement dans les conflits mondiaux et ont été décorés à plusieurs reprises par l'État. Voilà, au cours de l'histoire, ils ont fait partie vraiment de l'histoire.
Oui, il y a encore un petit côté militaire quand même.
Toujours. Pour faire bref, du coup, il y a eu 8 écoles en tout qui ont apparu en France, qui ont été construites. Ou en tout cas qui ont été créés. Mmh. Il y a eu Aix-en-Provence, Angers, Chalon-en-Champagne, Cluny, Lille et Paris. Donc chacun ont un peu leur spécialité.
D'accord, et Angers donc c'est...
Alors Angers c'est les matériaux et durabilité hydrodynamique et instrumentation. Alors me demandez pas ce que c'est parce que alors là je...
C'est la mécanique des fluides, vous j'imagine.
Ouais,
c'est...
plus ou moins, voilà. Mais, okay. J'ai pas poussé plus ma recherche que ça. Depuis 1990, l'école est un... De... Depuis 1990, l'école est un établissement public à caractère scientifique et culturel professionnel du type grand établissement.
Ah, c'est public.
Eh oui, c'est public.
Ah, je voyais ça comme une école privée, moi.
Moi aussi, alors je les voyais avec des grands public. Costumes, des grands galas. J'imaginais que c'était quelque chose, il y avait beaucoup d'argent.
Donc du coup, c'est abordable, c'est pris
600 euros par mois.
Et par
y a
an,
des bourses par an. Il y a des bourses qui sont créées et tout.
D'accord. Enfin, ah oui, donc c'est très accessible.
Très
en fait.
Accessible, ouais, ouais.
C'est sur dossier quand même, donc très accessible.
Oui, très accessible financièrement, je parlais.
Oui.
Mais après, il y a aujourd'hui 6000 étudiants qui existent, qu'on appelle les Gazards, sur toute la France, dont 2000 ingénieurs qui sont diplômés tous les ans.
Pas mal.
Donc c'est plutôt, plutôt canon. Voilà.
Alors ma question quand même, c'est tu sors du baccalauréat et là tu dis « Ah bah tiens, moi je voudrais faire des études en hydraulique, machin. »
Bah, moi, c'est une école comme une autre.
Non, mais ça veut dire que bah, tu veux faire quoi comme métier ?
Non, mais mécanicien. Après, dans mécanicien, il y a plein de choses.
Oui, je sais, mais tu vois bien qu'à un moment donné, tu sors du baccalauréat, bah, moi j'avais d'autres choses à penser que ça, hein. Enfin, franchement.
Ah, mais après, je pense que c'est des profils.
Après, il y a beaucoup de jeunes, on les met ou on les pose. Hein. Donc, effectivement, on voit qu'ils sont bons dans telle ou telle matière, donc on dit, voilà, bah, tu vas aller là. Et ils ne savent que leur métier qu'à la fin de toutes leurs études. Hein.
Après, ce qui est beau, c'est que c'est vraiment un réseau et qu'ils peuvent compter les uns sur les autres. Enfin, j'ai regardé plein de vidéos, il y a vraiment tout un cursus. Enfin, vraiment, je pense que quand on rentre dans cette école-là,
t'as un métier à la fin.
On a un métier à la fin, on s'en sort dans la vie, vraiment, c'est une valeur
ingénieur,
sûre.
Ingénieur, quoi, donc. Bah oui. Comme quand t'es ingénieur, sortons
très
de
bien.
N'importe quelle école.
Merci Mathias.
Avec plaisir. Oui.
Barbie ou barbante, gonflée ou gonflante, elles sont le sujet de sa chronique. Voici la poupée Manu. J'avais le choix pour les musiques sur poupée, mais je me suis dit, celle-là va dans la tête toute la soirée, voilà.
Voilà, c'est fait.
C'est fait.
Voilà. Alors, reprenons la grande histoire de la poupée. Non, c'était pour rire. Jusque dans les années 50, les petites filles avaient peu de jouets. Quand les garçons avaient nombre de supports pour éveiller leur sens et se projeter dans un avenir prometteur, les filles, elles, n'avaient que des poupons. La finalité était d'apprendre leur futur métier de maman, en fait. Tout au plus, elles avaient des figurines de papier et de carton qu'elles pouvaient habiller, colorier, découper. C'était un peu triste.
Voilà, je comprends pas quand on parle des rois, des reines, il y a des poupées, tout ça.
Oui, alors c'était réservé à une élite.
D'accord.
Voilà. Et très souvent, ce n'était pas des jouets, c'était plutôt des objets de collection.
Pour les adultes, en fait.
Pour les adultes.
D'accord.
Voilà. Et ça coûtait extrêmement cher. Mm-hmm. Et donc, voilà, toi, tu étais dans une ferme au fin fond du Larzac, tu n'avais pas de poupée.
D'accord, ils se les fabriquaient entre bouts de chiffon, quoi.
Voilà, c'est ça. Alors, dans les années 50, dans une contrée européenne, une poupée faisait le bonheur de toute une population, non pas d'enfants, mais de camionneurs et autres commerciaux.
Alors, d'accord.
Je rassure Françoise, non, je ne vais pas parler de poupée gonflable, je garde ce sujet pour une autre émission. Cette poupée de 13 cm, qui se trémousse sur le tableau de bord des voitures et des camions, est produite en Allemagne dans les années 50. Cheveux moulés et visage peint, elle est attachée à une fine baguette métallique reliée à une ventouse et fait de l'autostop. Elle était destinée principalement aux hommes comme objet promotionnel pour le journal ou comme cadeau amusant. Elle était vendue dans les bars, les tabacs, chez les marchands de journaux et dans les aéroports. Oh. C'était la première poupée de ce type-là. Alors oui, elle est d'abord destinée à la clientèle masculine, mais ce sont les enfants attirés par la garde-robe et les accessoires qui l'adoptent bientôt et elle devient un produit pour tous, de l'enfant à grand-maman. Alors tout commence le 24 juin 1952, jour où est édité le premier numéro du Bild Zeitung. Le rédacteur en chef propose un encart vide à Reinhardt qui dispose de 40 minutes pour le remplir avec un nouveau personnage de bande dessinée. Alors il décide d'abord de dessiner un bébé qui n'est pas retenu par son patron. Il propose alors une jolie blonde bien galbée qui, elle, est acceptée.
Tu m'étonnes.
Présentée comme une jeune femme à l'allure innocente et naïve, mais tout à la fois sexy, irrévérencieuse et culottée, elle est baptisée Lily. Alors, secrétaire sexuellement désinhibée, elle parle avec beaucoup d'esprit à ses amis, ses amants et son patron. Dans une de ses bandes dessinées, elle couvre son corps dénudé et explique à une amie. Je prends un air bête. Nous nous sommes disputés, il a repris tous les cadeaux qu'il m'avait faits. Dans une autre, en retard au travail, elle dit à son chef « Comme vous étiez fâché de mon retard ce matin, je quitterai le bureau à 17h pile. » Et un policier, lui, qui lui fait remarquer que les maillots de bain deux pièces sont interdits, elle réplique « Quelle pièce voulez-vous que j'enlève ?» Alors, vous l'avez compris, contrairement aux autres poupées de son époque, c'est une jeune femme moderne, libérée et complètement mature. Mature surtout de là, du haut, parce que là, les ZZ de Lily, elle est plate, hélice, sans trou d'aucune sorte. Il n'y a donc rien à apprendre de ce côté. Une bande dessinée, voilà, elle est devenue une poupée tant convoitée. Bref. Un jour, Madame Mattel, qui ne s'appelle pas vraiment comme ça, parce que Mattel, c'est la contraction des deux noms de famille des deux créateurs de l'entreprise Mattel, qui passait ensuite avec ses enfants, a découvert cette poupée dans une vitrine qui était fabriquée en Allemagne au départ. Mmh. Et finalement, sa fille, elle était un peu en pâmoison devant cette vitrine et elle a décidé d'acheter cette poupée. Mmh. Voilà. Mais alors, comment une poupée allemande sexuellement connotée a-t-elle pu inspirer la plus célèbre de toutes les poupées mannequins ? Parce que quand même, on est
sexuellement connotée aussi, hein.
Ouais, mais moins.
L'autre était vraiment...
Ah oui, d'ailleurs, ouais. L'autre, on l'offrait aux futurs mariés dans les soirées.
Ah oui, c'était carrément le truc cochon,
ouais,
quoi.
Bah, c'était pas cochon, mais il faut se remettre à l'époque.
D'accord.
Tu vois, dans les années 50, on avait des petites poupées avec des gros seins et ça faisait l'affaire, si tu veux.
Comme les calendriers.
C'était un peu comme les calendriers, ouais. D'accord. Voilà, où tu dévoilais un petit peu... Ouais. C'était exactement le même principe. Donc, je disais, comment une poupée allemande sexuellement connotée, parce que là, franchement connotée, a-t-elle pu inspirer la plus célèbre de toutes les poupées mannequins américaines, alors même qu'elle n'apprend pas aux petites filles à devenir de bonnes mamans ? Parce que je vous rappelle quand même qu'au départ, les poupées, elles servaient aux petites filles à devenir de bonnes mamans.
Bon, voilà. Les poupées, enfin, même les Barbie avaient des accessoires quand même pour
plus
apprendre.
Tard.
Ah, plus c'est plus tard.
Tard. D'accord. Eh bien, tout simplement par une idée de génie quand même de la marque Mattel d'en faire une femme moderne. Bah oui, on n'apprend plus aux femmes. Enfin, aux filles à être des mamans, voilà, on leur apprend à être éduquées, propres sur elles. Ça leur permet d'imaginer leur futur. En bref, une jeune femme bonne à marier, quoi. Tu vois ?
Oui, oui, d'accord.
Bien éduquée, bien propre, venant d'une bonne famille, voilà. D'ailleurs, son regard est légèrement dirigé vers le bas, à droite. Je ne sais pas si vous aviez remarqué
ça. Ah bon ?
Ben ouais, tout à fait.
Bon, il y a comme... tous les auditeurs qui vont chercher les Barbie qui sont dans les placards.
Je ne me souvenais pas de ça, mais effectivement, elles ont un regard légèrement décalé. Comme la poupée penche alors gentiment la tête. Cela donne le regard taquin et faussement soumis des femmes du temps.
Ouais.
Voilà. Et à partir de 64, Barbie peut plier les genoux, on se demande bien pourquoi. Et ses yeux se ferment.
Oh bah oui, tu m'étonnes.
Et après, on a eu toute la petite gamme des accessoires dont parlait Bruno
voilà, donc,
tout à l'heure.
Là, du coup, c'est plus féminin, enfin plus machiste.
Ah bah oui, mais c'était pas le démarrage. Moi, je
D'accord.
parle vraiment du démarrage. Alors, quand Barbie prend son envol au niveau international, le dernier dessin de Lily publié dans le fameux journal, là, publié le 5 janvier 1962, signe aussi la fin de la fameuse poupée allemande Lily.
D'accord.
En fait, la poupée allemande Lily, faut savoir que quand même Mattel, bon, ils le disent pas vraiment comme ça, mais ils ont un peu piqué le concept. Hein.
Ah oui, ils n'ont pas acheté les droits,
Mais ils ont acheté, mais en 1964.
D'accord. Ah, c'est envoi Lily, là.
Enfin, très allemande. Hein.
Elle est très allemande. Enfin, ouais. Très allemande. Ah, vous pouvez voir d'ailleurs sur l'image que si vous allez chercher des images de Lily, Internet, elle a les yeux assez étirés, elle a quand même un fard à paupières assez épais. Ah,
d'accord. Voilà, mais c'est vrai qu'elle ressemble quand même pas mal à la Barbie.
Hein. Je mets au défi de comparer les deux et de différencier, ouais, de distinguer la
moins de
première
poitrine,
Barbie.
En fait.
Ouais, peut-être, mais encore, c'est même pas tant sûr.
D'accord.
Voilà. Et alors là, en 1962, le dessinateur Reinhardt déclare « J'ai arrêté de dessiner Lily parce que le journal voulait la marier. »
Ah oui.
Bah oui, du coup. Parce que Mattel, enfin cette firme. En fait,
bah, elle a Ken.
Elle a Ken maintenant.
Ah bah elle a Ken à Max.
Elle,
ouais,
a Ken à Max. Hein. voilà, alors peut-être que ma rubrique était gonflante, mais la prochaine fois, je vous parlerai peut-être de la poupée...
Gonflable.
Gonflable. Mm-hmm. Je préviens Françoise, c'est pour la prochaine.
D'accord, bah on verra si ça l'intéresse peut-être.
Hein. Peut-être, on ne sait pas.
Dans la deuxième partie de CMA, on fera du sport en passant l'aspirateur autour d'un trône. Voilà, je sais ça, vend du rêve. Mais avant, c'est la pause. Alors, il y a quelques semaines, nous quittait Olivia Newton-John.
Oh.
Vous vous souvenez?
Elle est morte.
Qu'on a surtout connue avec le film Grease. Alors, il y a eu pas mal d'hommages à l'époque, mais sans doute pas celui qu'on va lui faire ce soir.
Voilà.
Alors, Olivia Newton-John, c'est d'abord, bien sûr, Grease, hein, avec la version originale. Allez, Caro, tu bouges.
Il y a eu d'autres versions ?
Alors maintenant que vous avez bien la musique en tête, voici la version plus sexy.
Ah oui.
Avec Sim et Patrick Topalov.
Non.
Alors pas sûr que ces noms parlent à tout le monde, mais leur chanson ne vous laissera pas insensible. Est-ce que c'était mieux avant? Peut-être. Voici une version étonnante de Grease, avec Où est ma chemise grise?
Alors bébé, accroche-toi et trouve-la moi.
Tu es repassé, je l'ai plié, je l'ai pourtant bien rangé.
Il a pourtant
t'en vas pas comme ça. Chérie, je vais la trouver.
Trouve-la moi, un point c'est tout.
Alors, cet hommage, Hein?
Non, ça manquait à ma vie.
Très bel hommage à Olivia Newton-John.
Maintenant, je peux mourir d'un arrêt du cœur.
C'est ça. Alors, c'était Sim et Patrick Topaloff avec Où est ma chemise grise. Il est temps maintenant de découvrir le sommaire de la deuxième partie de CMA. Il joue sur son propre terrain ce soir. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Tu nous sers quoi ce soir ?
Je vais vous servir du tennis.
Ah, d'accord. Pas de problème, on va faire ça.
Il y a le thé vert, le thé noir et le tennis.
Ouais, c'est pas mal non plus. C'est pas mal non plus. On remarquera que la présentation est très courte.
Hein ? Oui, mais alors j'ai autant décidé aller direct dans... d'aller direct parce que ma chronique est très longue, donc bon.
Ah, d'accord, donc ça va gagner du temps.
Droit au but, faut filer.
Oui, oui, c'est ça.
Droit au fil, exactement.
On prend les mêmes et on recommence. C'est pour que l'histoire continue. Il nous revient en spin-off. Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Il aurait aimé qu'un robot ménager puisse écrire ses chroniques, mais non. Heureusement, il a Internet. Bonsoir Florian.
Bonsoir.
Tu aspires quoi ce soir?
J'ai aspiré Wikipédia.
Comme d'hab.
Comme à chaque émission. Non, je vous parle de tous les petits objets qui, de tous les petits objets qui peuplent nos maisons aujourd'hui, voilà, et qui nous facilitent parfois la vie.
Ah, les objets
parfois
ménagers.
Parfois moins, mais d'accord. En tout cas, voilà, les objets ménagers.
Ok, très bien. Et pour le Graal, on verra qu'il est possible, s'il est possible, de dormir sur ses deux oreilles. Alors voici la deuxième partie de CMA. Ah non, mais les questions du Graal que posent les auditeurs sont de pire en pire. Hein, donc il faut toujours trouver des réponses et vous verrez qu'il y a une réponse. Ce soir, pour nous rendre service, il va nous faire un cours. On peut avoir confiance, il n'a jamais fait d'erreur.
Joli. Elle est belle.
Voici la chronique de Nicolas.
Je suis fin prêt pour mes deux sèvres. Je mets toujours deux paires de chaussettes. Me voilà devenu Noah, Jimmy Connors ou Panathan.
1, 2, 3.
Tennis.
Eh oui. Ah celui-là, ouais, c'est Philippe Laville qui chantait tennis. Hein.
Même moi je l'avais pas.
Celui-là. Ouais, on l'a été chercher loin celui-là.
Donc, après ma première chronique sur les sports automobiles, j'ai décidé de continuer à parler de sports chiants. Alors oui, aujourd'hui, on va parler de sports qui emmerdent les gens pendant deux semaines sur France 2, frustrés de voir leur téléfilm préféré se faire squeezer par des mecs qui crient en permanence, en se renvoyant... Oui, alors les gars aussi, hein, on écoute Raphaël Nadal pendant deux heures.
Ah, ça crie aussi.
Ah oui, ça crie pas mal.
Ça, c'était une imitation de Manu.
C'est moins sujet à blague, mais bon.
Voilà.
Merci Manu.
Manu, elle est à fond là.
Petit récapitulatif. Issu du jeu de paume, le sport a été adapté par deux Anglais au milieu du 19e siècle. Harry Jem est celui qui aurait inventé le tennis tel qu'on le connaît aujourd'hui, en 1869. En effet, avec l'invention du caoutchouc, lui et son ami espagnol Agüero Pereira adaptent le jeu de paume pour le jouer avec une raquette et des balles qui rebondissent un peu plus sur la surface du gazon.
Est-ce que le jeu de paume, c'était quoi déjà ?
Alors le jeu de paume, je ne sais pas si vous vous souvenez, attention, retour dans les cours d'histoire de collège, est-ce que vous vous souvenez du tableau du serment du jeu de paume ?
Oui.
Pendant la Révolution française, c'est un tableau qui est assez connu. Ouais. On voit des gens dans une espèce de grande salle. En gros, vous voyez un peu le squash aujourd'hui. Ouais. Donc c'est l'ancêtre du tennis.
Une raquette en bois.
C'est une raquette en bois. Alors avant, c'était même à la main.
Ah,
on envoyait une balle.
D'accord.
Mais après, j'expliquerai un petit peu plus en bas. Mais voilà.
Très bien.
C'est l'ancêtre du tennis. En fait.
Okay.
C'est un peu une genre de pelote basque, un mélange entre la pelote basque et le squash. Quoi. Mm-hmm. Donc ces deux hommes inventent ce qu'on appelle le lawn tennis, donc le tennis sur herbe. Évidemment, qui dit sport dit compétition. Et très vite, les premiers tournois de tennis voient le jour. Le premier vainqueur d'un tournoi officiel, c'est James Dwight en 1876. Donc 7 ans après la création du tennis. Mmh. Après, de nouveaux tournois voient le jour, comme le tournoi de Wimbledon en 1877, qui est donc le plus vieux tournoi encore existant.
Ah, quand même.
Après, on a les États-Unis en 1881 qui créent leur premier tournoi, donc qui va s'appeler après l'US Open. En 1891, sont créés les Internationaux de France, donc futur Roland Garros. Et enfin, en 1905, sont créés les Internationaux d'Australie, donc futur Open d'Australie. À eux quatre, ils composent donc les quatre tournois du majeur du tennis, donc appelé tournoi du Grand Chelem.
C'est-à-dire que dans d'autres pays, il n'y a pas de tournoi.
Alors si, il y a d'autres tournois, mais c'est les quatre tournois
principaux,
prestigieux.
Okay.
Voilà, c'est vraiment quand on gagne un tournoi du Grand Chelem, c'est qu'on est vraiment... Déjà, en gagner un, c'est déjà énorme. Mmh. Donc voilà, c'est que tu es quand même plutôt fort au tennis. Quand je tente de parler de tennis à mes proches, on m'arrête au bout de deux secondes pour me dire ouais, mais le tennis c'est chiant. Et puis en plus, j'y comprends rien au scoring. Là, je comprends rien. Là, pourquoi 15-30,
c'est vrai.
C'est vraiment bizarre.
C'est vrai.
Après leur avoir donné une petite tape dans la nuque parce qu'ils m'énervent et leur donner un verre d'eau parce qu'ils semblent un peu déshydratés, je leur explique l'origine du décompte des points du tennis. Bon, j'avoue, c'est un peu bizarre.
Bah, comment il parle à sa mère ?
Oui, je parle de toi, Manu. Ce décompte, il, assez particulier, il vient aussi du jeu de paume, encore lui. Il est pratiqué sur un terrain rectangulaire séparé en deux parties longues de 60 pieds par un filet. Parallèlement à ce filet, étaient tracées des lignes numérotées de 15, 30 et 40. Ah. Vous voyez où je veux en venir. Une fois qu'un point était remporté, le joueur ayant gagné l'échange devait s'avancer sur la ligne suivante, ce qui le rapprochait un peu plus du filet.
Ah, c'est sympa ça. Pourquoi ça t'a abandonné ça? Ça aurait pu varier un peu le plaisir.
Parce que ça, c'est le jeu de paume. Après,
ah, c'était vraiment
ça,
le paume.
C'était le jeu de paume, voilà. Ouais, et donc, il y a encore des tournois de jeu de paume qui se jouent encore aujourd'hui. Et on voit donc ces lignes qui sont
tracées. Et ils s'avancent au fur et à mesure.
Voilà, moi, j'ai une question. 15 pieds en taille 35, c'est quand même pas pareil que 15 pieds.
Oui, alors 15 pieds, c'est équivalent à 4,5 mètres.
Merci pour cette information.
Et alors, pourquoi 15, 30, 40? Pourquoi on ne fait pas 15, 30, 45?
Mais oui, pourquoi?
Parce qu'en fait, 45, c'était trop proche du filet. Donc en fait, quand t'arrivais à 45, t'étais trop proche, c'était trop facile, quoi. Donc on a adapté, on a mis 40. Et donc, après avoir passé 3 heures à expliquer à mes amis l'histoire des règles du tennis, me viennent des remarques aussi agréables qu'une crise hémorroïde pendant une balade à vélo, à savoir, oui, mais le tennis, c'est un sport de riche, flemme de payer un SMIC pour faire du sport. Après leur avoir donné une nouvelle tape dans la nuque et un nouveau verre d'eau parce qu'ils sont vraiment très déshydratés, je leur explique l'origine de cette opinion que porte le tennis. C'est dû en partie à la rivalité qui opposait les amateurs et les professionnels. Je m'explique. Tous les tournois que je vous ai cités précédemment, et encore d'autres, étaient réservés aux joueurs amateurs. Par là, je veux donc parler de personnes le plus souvent assez riches pour pouvoir pratiquer ce genre de sport. Parce que oui, à cette époque-là, dans les années au début du XXe siècle, il n'y avait pas de terrain de tennis municipaux comme on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que si tu voulais faire du tennis, fallait avoir un terrain de tennis chez soi, donc un très grand terrain. Et donc on avait des gens, donc des amateurs, on les appelait amateurs, mais voilà, qui étaient forts au tennis, mais qui avaient leur propre terrain de tennis et surtout un gros compte en banque. Et ces derniers ne voulaient pas se faire sèchement battre par des hommes dont le travail était de jouer au tennis, parce qu'il y avait aussi des professionnels de tennis. Et mais qui, par conséquent, étaient plus forts, mais étaient considérés comme un peu des besogneux. Et oui, on est à la fin du 19e siècle, début 20e, et la lutte des classes fait encore rage, même à travers le sport. Donc de 1870 à 1968, c'est très récent, donc presque 100 ans, on a d'un côté les amateurs qui veulent jouer entre eux, et les pros qui veulent participer à des tournois pour tenter de vivre de leur sport.
Sauf que les tournois, donc, sont amateurs.
Sont amateurs.
C'est
donc en
fait, les professionnels n'ont pas de tournois, donc je vois pas comment ils faisaient trop. Ils faisaient quoi?
Chacun leur tournoi de leur côté. Mais ça veut dire que, petit exemple, pour montrer la différence de niveau, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait deux niveaux différents, il y avait deux ligues différentes, quoi. Donc pour montrer la différence de niveau, en 1963, Rod Laver, donc c'est une légende du tennis hein, quand même, vainqueur de Grand Chelem en 1962, est opposé aux deux meilleurs joueurs pro, donc des professionnels, de 1962, Kenneth Rosewall et Lewis Alan Odd, à l'occasion d'un tournoi organisé mixte. Voilà, à peu près. Laver a remporté deux matchs, félicitations, pour 19 défaites. Montrant l'écart de niveau entre les pros les riches. Pourtant, Lever, c'était vraiment personne reconnue, c'était pas un pecno. Comme quoi, l'argent ne fait pas le talent. Finalement, le 30 mars 1968, la Fédération internationale de tennis autorise à ce que 10 tournois, au début, 10 tournois soient ouverts aux pros, se rendant compte que de l'argent que ça pourrait générer et de l'intérêt des téléspectateurs pour ce sport. Oui, on est en 68, la télé a de l'essor, donc voilà. Et donc c'est le début de ce que l'on appelle l'ère open, donc l'ère en français, l'ère ouverte aux professionnels.
Ah, c'est pour ça l'open de tennis, c'est ça.
Open d'Australie, open de machin.
Oh là là, voilà. D'accord.
Oh, je regarderai plus le tennis.
Pareil.
De là est créé l'ATP, donc l'Association of Tennis Players, et la WTA, donc on entend parler à chaque fois qu'on voit un tournoi. Donc c'est à partir de 1970 en fait que le tennis tel qu'on connaît aujourd'hui démarre. Donc ça fait que 50 ans, c'est très jeune hein, comparé au sport automobile dont je parlais dans la dernière émission qui avait 120 ans. Voilà. Avant de terminer, je veux aussi revenir sur l'ère que nous vivons en ce moment avec ces trois monstres absolus du tennis que sont Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Il n'y a que dans le tennis que l'on peut voir une domination absolue de trois légendes en même temps et sur une durée aussi longue. Pour donner un ordre d'idée, c'est comme si Zidane, Messi et Ronaldo jouaient dans la même équipe, comme si Michael Jordan et LeBron James jouaient tous les deux dans la même équipe en NBA, comme si Lewis Hamilton et Schumacher couraient en F1 en même temps.
Enfin, c'est pas la même équipe. Ils sont pas de la même équipe.
Ils
font
pas
le
la
même
équipe,
sport.
Mais ils jouent en même temps. Et pour montrer la domination de ces trois gars-là, donc sur 17 ans, il n'y a eu que 10 titres du Grand Chelem qui ont été gagnés par deux personnes
que ces trois-là.
Federer, Nadal et Djokovic.
Ah oui, on voit que...
Ouais.
Alors quand je parle de tennis à mes proches et qu'ils me disent « Ouais, mais le tennis c'est chiant, c'est toujours les mêmes qui gagnent. » Bon, là, bon, je ne peux pas dire le contraire. Ouais. Et cette fois, c'est moi qui prends un verre d'eau et qui le bois à la santé de ces trois bonhommes un peu fous, mais surtout bourrés de talent. Alors messieurs, messieurs, et rendez-vous sur les cours.
Ok, eh bien écoute, merci pour toutes ces informations, Nicolas.
Avec plaisir.
Dans quelques minutes, on fera la cuisine et le ménage, mais là, on se fait une petite série avant, et c'est avec Olivier. C'est très spin-off, là. Hein. Ouais, très reprise. Hein.
Oui, alors je vais vous parler de deux séries événements qui sortent en cette fin d'été à quelques jours d'intervalle. Alors d'un côté, depuis le lundi 22 août, là, c'était il n'y a pas longtemps, HBO, donc la chaîne américaine, a diffusé donc via OCS en France la série House of the Dragons, donc une préquelle de Game of Thrones. On en parlait tout à l'heure. Donc il y a
on
OCS
va en avoir pour 15 saisons encore, 20 saisons.
Ah bah, je vais vous dire après. Et d'autre côté, il y a Amazon Prime Video qui va sortir le 2 septembre. Donc Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir.
C'est donc, un préquel voilà. ou c'est avant, après?
Alors pareil, préquel, hein, je vais vous en parler. Donc on va donc assister vraiment à une guerre des plateformes, toujours, puisque les deux programmes dépeignent quand même les univers d'Heroic Fantasy qui sont souvent comparables, souvent comparés. Mmh. Et ça surfe sur deux immenses succès. Donc Le Seigneur des Anneaux, on connaît la trilogie de Peter Jackson qui était sortie déjà il y a déjà plus de 20 ans, sorti en 2001 le premier.
Ouais, mais je trouve que ça n'a pas vieilli ces films-là.
Ouais, ouais. Exactement, ça n'a pas vieilli du tout. Et puis, donc House of the Dragon, c'est une préquelle de Game of Thrones, qui est plus une série.
Qui était vraiment fait pour être une série au départ.
Ouais. Mais les deux, quand même, sont tirés donc l'une de l'œuvre de Tolkien, voilà, qui a écrit ça il y a très très longtemps, et puis l'autre, c'est George R.R. Martin, pour Game of Thrones, mais c'est des livres, des livres qui sont des livres de chevet pour tous les geeks qui se... tous les geeks ont lu... Moi, à l'époque, c'était tout ce que je connaissais, qui faisait des jeux de rôle, tout ça, ils avaient tous lu Tolkien, et puis je crois que maintenant, tout le monde a lu... Pourquoi tu rigoles?
C'est Feuille qui l'utilise, mais il recycle.
Et maintenant, tout le monde lit, tout le monde a lu, George R.R. Martin, Game of Thrones. Alors, tout d'abord, je vais parler de House of the Dragons, donc c'est une préquelle de Game of Thrones, donc c'est inspiré d'un récit toujours de George R.R. Martin, c'est inspiré du livre de Feu et de Sang, qui était un peu un... Alors, c'était pas vraiment un roman, c'est sorti il y a 4 ans, 2018, et c'était plus un livre d'histoire, c'était en fait une... Il a fait un petit peu ce qui se passait avant Game of Thrones, comme un livre d'histoire.
Okay.
C'est pas romancé.
Je t'arrête parce qu'il y a ton voisin. Il doit connaître parce qu'il fait « Oh, oh ». Alors vas-y, exprime-toi, Florian. Tu connais l'histoire ?
Je suis pas d'accord avec la comparaison du livre d'histoire.
Parce que j'ai pas lu.
C'est la forme du livre, effectivement, il est par roi. Parce qu'avant, il y avait des rois, je sais pas quoi. Enfin,
d'accord.
C'est par personnage. Mais à l'intérieur même des parties du personnage, du coup, c'est quand même assez romancé.
Il y a des dialogues quand même ou pas?
Ça explique. Mais oui, c'est on sent quand même qu'il y a une histoire.
D'accord. C'est bien, tu l'as lu.
Pas comme un livre d'histoire. Enfin, je trouve que la comparaison est...
Mais la comparaison, c'est qu'il y a plusieurs... En fait, le livre d'histoire, c'est qu'il y a plusieurs rois. On voit sur le temps. En fait, le héros, c'est le temps plutôt qu'une seule personne.
Dans le forme, ça peut ressembler à ça. Ouais. Mais à l'intérieur même des parties, pas tout à fait.
Ok.
Donc là, en fait, on va se situer à peu près 300 ans avant le début de Game of Thrones. Et on va suivre surtout la guerre. On va surtout suivre les rois Targaryens. Targaryens, c'est les ancêtres de la Khaleesi, Daenerys Targaryen, pour ceux qui ont vu les séries. Donc c'est la guerre entre Rhaenyra Targaryen et son demi-frère Aegon II Targaryen. Donc là, c'est pareil, c'est une lutte de pouvoir pour détenir le trône de fer. Donc on verra des dragons, de la violence et du sexe.
Bon, c'est pareil, quoi. C'est la même chose.
Alors, il faut savoir que même Matt Smith, donc acteur qui a joué dans Doctor Who, notamment, donc il joue le rôle d'un Targaryen, et lui, il a évoqué qu'il y avait beaucoup, beaucoup de scènes caliente et qu'il y en avait beaucoup trop. Il a dû les tourner, mais il avait demandé au producteur, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je tourne autant de scènes de sexe.
Ouais.
Donc, on va dire que ça sera assez chaud. Mais d'un autre côté, on apprend que voilà, ça sera quand même un film aussi sur la misogynie et le patriarcat au cœur de l'intrigue. Donc les rôles féminins font des rôles forts.
Oui.
Hein, un peu d'ailleurs comme était Game of Thrones. Il y avait vraiment
oui, les
des
femmes
rôles
étaient
féminins
assez fortes aussi. Ouais.
Assez complets, hein, que ce soit la reine, je ne sais plus comment elle s'appelait, ou même la soldate, enfin la... Je ne sais plus comment elle s'appelait.
Mais est-ce que le roman d'origine était axé sur le pouvoir des femmes? Non, pas spécialement. Donc c'est vraiment quelque chose... MeToo est passé par là, quoi. On a réécrit pour faire plaisir à tout le monde.
Okay. Alors, d'un autre côté, on aura Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir. Donc là, c'est pareil, c'est issu d'un livre de Tolkien. Donc là, on est à peu près à la période du Deuxième Âge. Donc il faut connaître la mythologie Seigneur des Anneaux. Mmh. Ça se passe à peu près 7000 ans avant la trilogie. Donc on verra la création des anneaux, on verra l'ascension de Sauron qui va forger l'anneau aussi. Et puis, on verra l'alliance entre les elfes, les hommes et les nains. Alors là, Amazon a signé pour 5 saisons qui coûtent à peu près 200 millions de dollars chacune. Donc, on est sur un budget de 1 milliard de dollars. Ils ont reconstitué des villes et tout. Enfin, apparemment, c'est sublime. Sauf qu'il y a des polémiques. Alors, il y a des polémiques, on va dire, plutôt puantes. C'est-à-dire que au mois de février, il y a eu un teaser. Alors, d'abord... les images qu'on a vues, ça faisait un peu jeu vidéo, donc ça a été un peu critiqué, c'est trop sceptisé. Voilà, c'était pas le truc, c'était pas le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson.
C'était pas un film, il y a plus de films, d'accord.
Mais la polémique puante, c'est qu'en fait, ils ont mis des acteurs noirs pour interpréter des nains, des elfes et tout. Et ça, donc c'est la droite américaine a crié au scandale, parce que dans l'univers anglo-saxon de Tolkien, l'univers un peu médiéval, il ne peut pas y avoir de noir. Alors qu'est-ce qui vous a dire le plus entre les deux? Aucun.
Non. Si, plutôt...
Ah, toi, tu voudrais revoir ce que, par rapport à ton livre?
Non, plutôt la création des anneaux, tout ça.
Ah oui?
Ouais. Comme ça fait longtemps, en plus, je trouve ça plus intéressant que Game of Thrones.
Oui, moi, vu que j'ai vu que Le Seigneur des Anneaux, j'irai plutôt vers...
Vers l'autre, pour voir. Oui. Moi, j'ai peur avec les séries, parce qu'ils allongent pour que ça fasse long. Et donc, se passe rien, quoi. Franchement, Game of Thrones, il y a plein de fois où il se passe absolument rien dans l'épisode.
Sauf à la fin, où ça s'accélère.
Bah oui, alors on voit que la fin, quoi. Alors, mais...
House of Dragon, l'intérêt, c'est qu'il y a quand même une fin. Et il a écrit le livre, on sait comment ça se termine.
Ouais. Sauf si ça marche.
Game of Thrones, il n'a pas encore fini les bouquins. C'est pas...
Ah oui.
Donc là, oui, les producteurs américains de HBO, là, Game of Thrones, c'est eux qui ont inventé une fin, quoi.
D'accord.
Oui, parce que c'est pas les bouquins.
Très bien. Eh bien, écoute, merci Olivier, en tout cas, pour toutes ces informations. On regardera ça donc fin août sur le réseau qu'on a, ce suivant. Si on a les deux, on pourra regarder les deux. Il aspire, il malaxe, il chauffe, puis il refroidit. Non, c'est pas Florian, quoique. C'est sa chronique, en tout cas.
Branchez-moi, chargez-moi, et c'est parti. Je ferai ce pourquoi l'on m'a construit. Car je suis un robot, le meilleur ami de la ménagère.
C'est beau.
Oh, la musique des années 80. Quoi.
Elmer Footbeat.
Mais qui est la ménagère?
Voilà. Ça ne te dit rien, Elmer Footbeat?
Daniela, absolument pas.
Ah, Daniela, tout ça, non. Ah, je crois que Manu, il y a tout un... Ah, alors, oh là là, vu les yeux de Manu, je pense qu'il va falloir lui faire écouter Elmer Footbeat. On y va pour les appareils ménagers.
Les appareils électroménagers, même, d'ailleurs. Donc, fini le lavoir pour laver le linge, fini le feu de bois pour cuire la délicieuse soupe, ou le cuisseau, comme vous voulez, fini les balais de paille, les blocs de glace et autres outils et ustensiles ménagers désuets. Fini les longues heures de tâches ménagères, place au lave-linge, au four, à l'aspirateur, au réfrigérateur et aux autres appareils d'électroménager.
Jusque-là, on est d'accord avec toi. Hein, oui, mais on n'apprend pas grand-chose, mais on est d'accord avec toi.
Je ne sais pas si vous allez apprendre des choses. L'essor de tous ces appareils dans notre quotidien, je suis en train de muer, n'est possible que grâce à des génies inventeurs et à l'électricité surtout. Donc ça tâtonne pas mal, ça invente, ça tâtonne au 18e siècle, puis ça éclot vraiment au 19e siècle. Le premier élément d'électroménager, à votre avis, qu'est-ce que c'est?
Alors, est-ce que c'est
le frigo?
La machine à laver.
C'est vrai que la machine à laver, elle pourrait, parce qu'elle n'était pas électrique, on pouvait la faire tourner avec
le four.
Le fer à repasser, non?
Ah non, ça c'est beaucoup plus récent.
Ah non, moi j'aurais dit fer à repasser, moi.
C'était électrique?
Alors, ah oui, c'est ça la question, c'est...
Oui.
Ah
c'est électrique. Ah, oui. Ah donc déjà, quand même, dans les années 20-30, quand même.
L'aspirateur.
Non.
Bon.
Du coup, c'est un réfrigérateur.
Ah, c'est bien.
Ouais. D'accord.
Ah, ouais.
qui date de 1876.
Donc il n'était pas électrique.
Ah, pourquoi ?
Bah, 1876, je ne pense pas qu'il y ait électricité.
Bah, il y avait électricité quand même.
Les d'accord. historiens autour de cette table, répondez-nous, s'il vous plaît.
1876.
Ah bah oui, non, il n'y avait pas le courant. Hein.
Mais je pense que c'était. Mais après, on pouvait compresser un gaz et le faire décompresser. Alors, avec.
Effectivement, voilà. Avec 1876, c'était une machine frigorifique à compression.
C'est ça.
Alors, il y a eu d'invention au 18e, déjà, ouais. sur des choses qui pouvaient refroidir les aliments, mm-hmm. donc les ancêtres de frigo. Mais ce n'était pas tout à fait les frigos qu'on connaît aujourd'hui. Là, d'accord. en 76, on est plutôt sur un frigo qui ressemble à peu près à ce qu'on
c'est un peu miniaturisé et puis les gens pouvaient l'avoir chez eux. Quoi.
Voilà, tout d'accord. à fait. Donc ça fait son chemin, ça évolue. Chacun met sa petite patte pour mm-hmm. faire évoluer le frigo. Et en 1922, est lancé sur le marché américain, justement, un réfrigérateur. Alors, il est vendu à une fois et demie le prix d'une Ford T à l'époque.
Oh, la vache.
D'accord.
Donc déjà
une Tesla quoi.
Une Ford. Une Ford, donc la Ford T, c'est la première voiture un peu industrielle qui est construite en série. Bon, déjà ça coûtait pas non plus c'était pas hyper abordable.
Ouais. Donc, c'était des frigos industriels.
Donc
peut-être.
Un frigo encore moins.
C'était plus industriel du coup, c'était plus pour les grands restaurants ou les choses comme ça, pas chez soi.
Non, c'était un frigo domestique.
Okay.
Mais ça coûtait cher à l'époque puisque c'était tout nouveau. Alors donc cette invention permet de conserver les aliments au froid. Facilement, là je vous apprends.
Ouais, jusque-là, ouais, on est d'accord avec toi.
Mais justement, c'est le facilement. C'est-à-dire que la facilité, en fait, c'est l'un des objectifs qui est recherché par la création des appareils d'électroménager. Mmh. En plus de l'efficacité, de la rapidité.
Et de gagner du temps.
Ouais. Et de faire autre chose, quoi. Et que ça soit moins pénible. En tout cas, que les tâches soient moins pénibles à faire. Donc là où certaines tâches, d'ailleurs, du quotidien prenaient plusieurs étapes. Comme laver son linge, en fait, il fallait plusieurs étapes, parce qu'il fallait blanchir le linge aussi. Mm-hmm. Donc, il fallait trier son linge, il fallait aller au lavoir, il fallait même chercher de l'eau au puits parfois pour laver, il fallait rajouter des produits chimiques à l'intérieur.
Bon, et rincer après, enfin voilà.
On rajoute toujours des produits chimiques, la lessive, ça reste un produit chimique.
Oui, mais tout est fait par la machine maintenant, c'est ça.
Voilà. Et donc aujourd'hui, on remplace ça par finalement des choses où il y a une seule action, voire deux, enfin des trucs assez dérisoires par rapport à ce que ça produit. Et d'ailleurs, le premier lave-linge avec essorage dans le tambour, parce qu'il y a eu plein de machines à laver où il fallait tourner tout seul, enfin tout ça. Mm-hmm. Du coup, le premier vrai lave-linge date des années 60.
D'accord.
Donc c'est quand même très récent, l'électroménager. Du coup. Ça arrivait dans notre quotidien de façon très récente. Je me suis intéressé aux grilles pain aussi. Alors ne me demandez pas pourquoi.
C'était ce matin qu'il a fait sa chronique.
Pourquoi tu t'intéresses
aux grilles pain ? C'est ça, c'est ce matin.
C'est parce qu'il y a des incendies partout.
Le premier grille pain qui permet de griller deux tranches en même temps.
Ah, c'est important.
Parce qu'avant, on pouvait trier
une seule tranche.
Tranche par tranche. Bah, on pouvait faire ça au feu, plaque.
Grille pain deux tranches, qui était plus long, quoi. Plus long que large, quoi.
Deux tranches, quoi. Et un grille-pain électrique, surtout, date de 1925.
Ah oui, quand même.
Voilà. Alors, 1925, c'est les plus riches, du coup, qui ont accès à ça. C'est vraiment que à partir des 50, 60.
C'est du luxe, en plus. Hein. Parce qu'à l'époque, on avait il y avait des trucs pour cuire, des feux de bois et tout ça aussi.
Oui, c'est ça. Quelle était l'utilité pour commun des mortels d'avoir un grille-pain parce qu'ils avaient le feu dans la cheminée, quoi. Donc,
c'est vrai. Et oui.
Voilà.
Et oui, mais après, on ne fait plus de feu dans nos appartements ou dans nos maisons maintenant.
Donc non, on les fait ailleurs.
On les fait ailleurs.
Dans la forêt.
Le grille-pain est
et
pratique.
Et on tue des écureuils.
Ah, c'est vrai.
Je suis triste. Oui. si, on est triste.
Oui, je comprends, mais je ne vois pas le rapport.
Alors, donc, du coup, l'électroménager, en tout cas les appareils ménagers, pas forcément électriques, ça trouve quand même un certain intérêt auprès des petits inventeurs. Hein. Ouais. Et donc, je vous parle du presse-agrumes maintenant.
Ah.
Qui remporte justement un franc succès par tous les inventeurs, puisque en 2007, le Bureau américain des brevets comptait plus de 200 brevets.
Mmh. Alors,
200 brevets d'invention pour des presses agrumes.
Mais pourquoi ? Parce que le principe, c'est toujours le même, en fait.
De tourner.
Mais c'est la forme pour...
La forme, des trucs un peu...
Mais c'était pas électrique.
Avec un mécanisme différent, des presses agrumes électriques ensuite. Les 200 brevets, c'est pas forcément électrique.
D'accord.
Mais en tout cas, c'est des façons de presser son citron ou son orange différentes. Et il y a plus de 200 brevets en Amérique pour ça.
Mmh. Eh ben.
J'aurais
designé, en fait. Ouais, c'est le design.
J'aurais jamais pensé que ça pouvait susciter autant de passion.
Et si.
Mais si.
Non, mais c'est pourtant un beau presse-agrumes.
C'est... Parce qu'on gagne du temps en plus quand c'est automatique. En plus, tu mets juste un truc comme ça et tu laisses tourner.
Il y a même les designers qui ont fait ça. Philippe Stark.
Oui, il en a fait des beaux aussi.
Il a fait des beaux.
Alors, vous parliez tout à l'heure du fer à repasser.
Oui.
Oui.
Le premier fer à repasser date de 1917.
Électrique.
Électrique, bien sûr, produit par Calor.
Bah dingue, Calor, dingue, ça veut dire quoi, ça veut
calor.
Dire,
chaleur.
Et donc, après le fer à repasser, ils se disent que la chaleur, ça leur va, et ils inventent aussi le sèche-cheveux, en 1925.
Ok, n'est pas confiance.
Qui est repris ensuite par Moulinex, enfin il y a plein de marques de toute façon d'électroménager qu'on connaît encore. 1946, nous avons le premier four à micro-ondes.
Ah oui.
Qui est inventé par un Américain. Donc ça, ça facilite quand même grandement la vie pour la cuisson.
46.
En 1946.
Ah oui, c'est en fait les premiers radars. C'est une erreur. Ils ont fait une erreur. Ils ont.
C'est dingue.
On a découvert ça par erreur. Oui.
Alors c'est... Oui. On la racontera peut-être un autre jour.
Le micro-ondes.
Oui. Alors le micro-ondes en 1946, il mesure 1m80 de haut.
Ah oui.
Et pèse 340 kg.
Voilà.
Et il coûtait l'équivalent de 34 000 $ actuels.
Ah oui, d'accord.
Oui,
donc c'était pas à la portée de tout le monde et c'était un peu encombrant quand même. Hein.
Un petit peu.
Donc les choses se sont
beaucoup. Intérêt à rentrer le petit chat.
C'est beaucoup. Beaucoup amélioré.
Faire les grands plats.
Mamie.
Mamie.
Alors justement en.
En parlant de mamie.
En parlant de coût de l'électroménager,
oui.
Aujourd'hui l'électroménager reste quand même plutôt abordable, même s'il y a des choses qui sont onéreuses, mais en tout cas.
Les premiers prix sont abordables.
On peut quand même s'acheter d'électroménager facilement, voire trop facilement d'ailleurs, puisque ça crée quand même des déchets assez importants et du un peu tout jetable, puisque dès que ça ne marche plus, on rachète finalement un nouveau grille-pain, un nouveau couteau électrique, j'en sais rien, un nouveau truc.
Rapidement.
Voilà. Et donc, face à l'augmentation des déchets liés à l'électroménager et à la pollution que ça entraîne, les pouvoirs publics ont pris des mesures, notamment la création d'une taxe d'éco-participation. Mmh. À chaque fois que vous achetez de l'électroménager, vous payez une taxe pour le tri, le recyclage, la valorisation. L'obligation des constructeurs de fournir des pièces détachées aussi à partir du 1er janvier 2022.
Mmh. Mmh. D'ailleurs, c'est noté sur les notices pièces disponibles jusqu'à.
Mmh. Et la création en 2015 du délit d'obsolescence programmée. Ouh. Et donc les constructeurs n'ont pas le droit ou n'ont plus le droit en tout cas de prévoir un arrêt programmé de l'électroménager que vous achetez.
D'accord, très
et
bien.
Ils peuvent être condamnés à des fortes sommes.
Mais
c'est
prouver,
déjà
c'est
dingue
facile.
Que ça ait existé. Quoi.
Ouais. Merci Florian.
Question de Marlène, comment peut-on faire pour dormir sur ses deux oreilles?
C'est un scandale de poser cette question. Je ne l'entends pas de cette oreille. Cette question est lue pour la première fois en 1832 dans une lettre de Prosper Mérimée, écrivain, historien et archéologue français, à Stendhal, écrivain grenoblois connu pour des romans comme « Le Rouge et le Noir ». Dans cette lettre, on peut lire, entre autres, « On m'assure de tous côtés que vous n'avez point d'inquiétude à avoir. Ainsi, soyez au repos et dormez sur les deux oreilles. » Notez qu'on lit « les deux oreilles », pas « ses deux oreilles ». Les linguistes disent que c'est une forme d'amplification pour insister sur le silence et la quiétude du moment. Il est vrai que pour l'être humain, c'est compliqué de dormir en même temps sur ses deux oreilles. À la limite, les sauterelles qui ont les oreilles sur les genoux pourraient peut-être faire cet exploit physique. Alors si vous en croisez, demandez-leur. Mais pas quand elles dorment du coup, parce qu'elles ne vous entendraient pas.
Il est temps maintenant de découvrir le CMA+ de la semaine. Chaque semaine, nous demandons à un panel d'auditeurs de sélectionner une chronique qui leur a appris des choses ou qui les a amusés. Cette chronique est alors couronnée de CMA+, et figure dans les podcasts plus de Radio G. Il y a 15 jours, on a parlé de moto, de lettres d'amour, de sport automobile, de montagne russe, de Bermuda et d'actualité au cinéma. Alors, moi, j'aurais bien parié sur les lettres d'amour, hein, parce que c'est vrai, Manu, elle avait parlé de sexe, elle avait tout fait pour gagner, tout ça, ça marche toujours.
J'ai toujours pas gagné ?
Eh ben non.
Oh, merde.
C'était sans compter sur le désir de retomber en enfance et de s'amuser de nos auditeurs qui ont choisi les montagnes russes.
Oh. Non.
C'est donc Mathias qui a gagné.
Bravo,
Mathias, qui a gagné donc le CMA+ cette semaine. Wow. C'était CMA à retrouver sur vos plateformes de podcast. Abonnez-vous pour ne rater aucune émission. On va se retrouver très très vite. Merci à nos chroniqueuses et cœurs de ce soir. Merci Nicolas.
Merci beaucoup.
Merci Olivier.
Merci, bisous.
Merci Florian.
Merci à vous.
Merci Mathias.
Merci, bisous.
Merci Manu.
Merci.
Et merci Caroline.
Merci.
Bonne soirée et n'oubliez pas qu'on ne peut pas être sans avoir été. C'était CMA.